Chapitre 60. Alors que les hommes émergeaient de la gueule noire de la caverne, une créature ailée deux fois plus grosse qu'un être humain se laissa tomber sur un traînard. Ayant vu son agresseur, le soldat plongea sur le sol à temps pour ne pas être déchiqueté par d'énormes serres. Sans pouvoir identifier le prédateur, Richard eut le temps d'estimer sa taille et de voir ses serres, pas le genre de monstre auquel on avait envie de se frotter. Alors que le sorcier et ses compagnons se ruaient hors de la grotte par toutes les ouvertures disponibles, une multitude de créatures sombres se détachèrent de la voûte pour se mettre en chasse. Armes au poing, une partie des soldats se retournèrent pour tenter de tailler en pièces leurs agresseurs. D'autres leur décochèrent des flèches dont chacune fit mouche, mais sans arrêter sa cible ni même la ralentir. Dans le labyrinthe obscur, les défilés étant presque aussi sombres que les grottes parce que leurs parois se touchaient quasiment au sommet, bien malin qui aurait pu dire à quoi ressemblaient les monstres. Mais deux choses étaient sûres. Ils volaient vite, et ils n'avaient aucune intention amicale. Flairant un festin, ils ne se laisseraient pas décourager par quelques projectiles. Il en vint bientôt de partout, comme s'ils jaillissaient du sol ou de sous les rochers à la manière de gros insectes. Du coin de l'œil, Richard vit un tueur volant se détacher des autres et piquer vers Callan et lui. Se retournant, le sorcier frappa juste avant que le prédateur s'abatte sur sa femme. De la pointe de sa lame, il ouvrit sur toute sa longueur le torse et le ventre du monstre, qui alla s'écraser sur le sol en laissant sur sa trajectoire une traînée de sang et d'entrailles. Claquant encore des crocs et battant des ailes, la créature au long cou assez fin mit encore quelques secondes à mourir. Mais d'autres arrivaient toujours, comme un vol de chauves-souris au crépuscule. Toujours très près de Richard et Callan, selon la consigne en vigueur, Nietzsche leva soudain les mains, comme si elle entendait repousser les prédateurs. Une bonne dizaine tombèrent en même temps, à l'évidence, raides morts. Richard vit que les ailes de ces monstres, repliées à leur corps par une membrane, ressemblaient à s'y méprendre à celles d'une chauve-souris, mais leur corps était couvert d'écailles noires et non de fourrure. Même si elles partageaient certaines caractéristiques avec d'autres animaux, ces créatures ne ressemblaient à rien que Richard ait jamais vu. « Qu'as-tu fait ? » demanda-t-il tandis qu'il poussait Nietzsche et Callan devant lui, en direction d'un groupe d'arbres.
« J'ai fait s'arrêter leur cœur, » répondit la magicienne. « Mais seulement chez quelques-uns. Ils sont trop nombreux pour mon pouvoir. J'espère que cette démonstration les intimidera. »
Alors que les trois jeunes gens couraient parmi des frênes et des bouleaux en direction d'une grotte, un animal poussa soudain un cri puissant. Quelque chose comme le rugissement d'un félin. Un lion des montagnes peut-être, ou un cougar. Le cri continua, de plus en plus impérieux.
« Regarde !»
lança Callan en tirant sur la manche de Richard. Elle désigna un étroit couloir, presque un tunnel tant ses parois étaient proches de se toucher pour former une voûte. À la faveur de l'humidité, de la mousse et des mauvaises herbes avaient poussé dans les fissures des cloisons.
« Qu'est-ce que c'est ?»
cria Richard sans ralentir. Conscient qu'une autre créature pouvait se détacher de ses compagnes pour tenter sa chance, comme celle qu'il avait éventrée, il ne tenait pas à s'immobiliser en terrain découvert pour voir quelque chose.
« Ces chasseurs !»
s'époumona Callan.
« Sur ce rocher-là !»
Richard n'en fut pas vraiment surpris. Au cours de la journée, il avait plusieurs fois repéré une ombre furtive qui les suivait. L'animal espérait peut-être que Callan lui redonnerait à manger. Mais pour l'instant, le félin était le cadet de ses soucis.
« Allez, il faut nous abriter dans cette grotte !»
Quand ils furent quasiment à destination, Chasseur rugit de nouveau, un son si menaçant que tous les fugitifs tournèrent la tête. Dès qu'il vit qu'on le regardait enfin, Chasseur sauta de son rocher, détala dans la direction opposée à celle de la grotte où Richard et les autres allaient entrer, revint sur ses pas, sauta de nouveau sur le rocher et recommença son manège.
Il ne veut pas que nous entrions dans cette caverne,
dit Callan stupéfaite.
Et il nous fait comprendre de le suivre.
Richard hésita, puis il sonda la grotte et comprit. Elle grouillait de prédateurs ailés. Sous leur corps et leurs ailes, la voûte disparaissait totalement. Chasseur rugit de nouveau.
Suivez le félin,
cria Richard. Tous les fugitifs se détournèrent de la grotte pour s'engager dans le canyon où Chasseur avait disparu. Dans son dos, Richard entendit le battement de milliers d'ailes. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, il vit qu'un nuage noir fondait sur eux.
Un des soldats fut happé par cette masse grouillante. Aussitôt, Richard comprit qu'il n'y avait plus rien à faire. Comme pour le confirmer, une brume rouge flotta un instant dans l'air. Alors que les monstres piquaient toujours sur eux, Richard vit Irena et Samantha se plier en deux en courant. La magicienne, nota-t-il, avait passé un bras autour de la tête de sa fille afin de la protéger. Épée au poing, Richard fit signe aux deux femmes de passer devant lui.
« J'ai entendu des rumeurs sur ces créatures !» dit Irena.
Elle s'immobilisa et lança une série de sortilèges. Chaque fois, plusieurs créatures semblèrent soudain désorientées, volant en zigzag et se cognant contre les parois de pierre du défilé.
Selon ces rumeurs, certains endroits dans les terres noires seraient infestés par ce qui pourrait être des dragons troglodytes.
« Quoi que ce soit, ils sont trop nombreux pour qu'on les arrête !» répondit Richard. « Si tu restes là, tu mourras. Allez, courez toutes les deux !»
Quand Irena et Samantha furent reparties, courant à toutes jambes, Nietzsche plaqua une main dans le dos de Richard et le poussa pour qu'il ne s'arrête pas. Puis, elle se retourna en courant et expédia sur leurs poursuivants des flammes qui en carbonisèrent des dizaines et ralentirent les autres. Les ailes en flammes, les blessés hurlèrent de douleur, puis partant en vrille, ils se fracassèrent sur le sol, l'impact assez rude pour leur briser les os. Transformé en torche volante, un des monstres s'écrasa contre un pin, le déracinant à moitié. L'arbre s'embrasa en un clin d'œil. Par bonheur, tout était bien trop humide pour que l'incendie se propage. Nietzsche se retourna de nouveau et força le cœur d'une vingtaine de créatures à cesser de battre. Comme les précédentes, elles tombèrent telles des pierres. Lancées à pleine allure, celles qui les suivaient les percutèrent avant qu'elles aient eu le temps de toucher le sol. Les ailes emmêlées, les monstres percutèrent la roche, puis rebondirent avant de s'écraser définitivement. Encore quelques précieuses secondes gagnées pour les fuyards. Quand le dernier homme fut entré dans le canyon, Richard prit Nietzsche par le bras et l'attira avec lui. Callan saisit l'autre bras de la magicienne. À toutes jambes, les trois jeunes gens se lancèrent sur les talons des soldats à la suite du mystérieux félin tacheté qu'ils apercevaient de temps en temps au détour d'un lacet. Richard espéra que ce fiel animal n'était pas une erreur mortelle, mais il les avait incontestablement sauvés un peu plus tôt alors qu'ils se jetaient dans la gueule du loup. Le suivre, ou qu'il les entraîne, était certainement le mieux à faire.